Session de théologie par le Père Marie-Dominique Philippe, le 26 août 1993, 10e conférence.
Je réponds à deux questions posées. La personne regarde le « je suis ». Comment pouvons-nous parler des trois personnes dans la Trinité comme personnes? En Dieu, il y a à la fois un « je suis » et trois « je suis ». Et puis ajouter qu'au point de vue de l'être, c'est la simplicité absolue. Vous n'entendez pas. On ne sait pas à quoi ça tient. La personne regarde, vous n'entendez rien. Vous entendez comme ça, écoutez, je vais me mettre debout comme ça, je vais m'aider. Montrer tout simplement qu'il n'y a aucune contradiction, parce que ça, c'est quelqu'un qui veut connaître, il veut savoir ce qu'est la personne, la très sainte Trinité, bien vous ne le savez pas. Et qui est l'esprit. Vous entendez comme ça? Qui se distingue uniquement par une relation. La relation n'ajoutant aucune qualité les permet. C'est moins compliqué que la très sainte Trinité, hein. Parce que ça, c'est pas un mystère. c'est une complication. Tandis que Dieu est absolument simple. Donc, un seul être. Vous voyez, saint Thomas se pose la question. J'ai revu récemment, parce que je voulais en avoir le cœur net. Saint Thomas se pose la question. Le théologien peut-il dire un seul je suis? Eh bien non. Le théologien ne peut pas dire un seul je suis. Le théologien doit dire qu'il y a la simplicité absolue dans l'être de Dieu et trois personnes. Le théologien, le philosophe, peut dire qu'il découvre un être premier dont le je suis est absolument simple. Et le théologien affirme qu'il y a trois personnes en Dieu et que ces trois personnes sont dans une simplicité absolue au point de vue de leur être, dans une unité parfaite, monothéisme. Il y a un seul Dieu. Et quand les musulmans nous disent, vous catholiques, vous affirmez trois dieux, il faut leur dire non. Tout simplement. Vous ne savez pas ce que vous dites. Il y a un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Il faut être très très net là-dessus, hein, parce qu'on aura le dialogue avec les musulmans. Et les musulmans vous sortiront ça. Il ne s'agit pas de trembler, ça va vous dire, ah oui, il y a trois personnes, oui, c'est vrai, oui, oui. Eh bien non, il faut être extrêmement net et leur dire que le mystère de la Trinité permet de découvrir une unité en Dieu plus divine que ce qu'ils disent. Et je crois qu'il faut être très très net. J'ai raconté à certains ce petit dialogue que j'ai eu au Sénégal quand je prêchais à Kermoussa chez les bénédictins. Il m'avait dit, il y a un petit port de mer tout proche, à un quart d'heure en auto. Alors j'avais demandé à quel moment les bateaux revenaient de la mer, bateaux de pêche. Il m'avait dit à 5h du matin, et si vous y allez à 5h du matin, il n'y aura pas un seul Européen. Vous serez uniquement Afrique, pure. Alors je voulais voir ça, parce que c'est un spectacle extraordinaire. Et ça reste devant mes yeux. Quand je suis arrivé, dominicain blanc s'est précipité devant de moi, un petit gosse de 8 ans. Il m'a dit, tu connais pas, je vais te montrer. Alors je dis, oui, montre-moi. Alors on a fait tout le cours du port, cours de pêche, quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, les bateaux arrivent encore avec des troncs d'arbres en dessous pour pouvoir amarrer et repartant comme ça. Et les femmes étant là pour dépecer tout de suite les poissons. Et à côté des femmes, ces animaux extraordinaires, méchants, mais quand ils sont en train de prendre les intestins et tout ce qu'il y a de particulièrement appétissant chez un poisson, vous pouvez les caresser. Ils ne bougent pas. Vous comprenez ce que c'est que le concupiscible? Hein, immobile, immobile. Je On expose ça au soleil. Il y a des tas de mouches qui viennent. Merveilleux. Extraordinaire. Alors ce petit gosse m'accompagne comme ça pendant une bonne demi-heure. Puis en partant, il dit, pourquoi tu n'es pas musulman? C'est parce que je suis chrétien. Mais pourtant, tu devrais être musulman si tu étais chrétien. Ah, je dis, pourquoi? Mais oui, parce que le Christ a dit que Mahomet arriverait. Il a promis. Il n'a pas dit le consolateur, ni le paraclet. Il a promis que le dernier arriverait. Et c'est Mahomet. Alors on a commencé une bonne petite question théologique ensemble. Mais il avait une conviction merveilleuse, hein, une foi de quelqu'un qui avait appris, évidemment, on sentait très bien. Je lui ai demandé s'il avait lu l'évangile de Saint Jean. Alors il m'a dit non. J'ai lu le Coran. Et c'est dans le Coran que je dis ça. Il dit oui, mais on peut peut-être aller plus loin. Alors il aurait des yeux extraordinaires. C'est ça. Bon, alors, je veux dire, c'est que Saint Thomas s'est posé la question. Ceux qui connaissent un tout petit peu la Somme savent très bien que quand Saint Thomas traite la question de Dieu 1, il ne parle pas de la personne. Et la personne arrive dans le mystère de la très sainte Trinité. Ah, ça, c'est très intéressant. Ça montre bien que en Dieu, je ne peux pas dire une seule personne et trois personnes, non. En tant que chrétien, je dis un seul être, un seul Dieu, dans une simplicité absolue de son être, de son essence, de ce qu'il est en lui-même. Simplicité absolue. Et la foi me dit qu'en Dieu, il y a cette fécondité divine, mystérieuse, que je ne connais que par révélation. Et cette fécondité s'achève dans le Fils et dans l'Esprit. Alors, je vais un peu plus loin. Quand il est dit à Abraham, je suis celui qui est. Vous savez, cette petite phrase qui a fait couler énormément d'encre. Je suis celui qui est. Je suis. Alors, est-ce que c'est Dieu créateur? Est-ce que c'est le Père? C'est quand Abraham, pardon, Moïse demande à Dieu son nom. Quel est ton nom? Tant qu'on ne connaît pas le nom de Dieu, on ne connaît pas. Si on me demande, qu'est-ce qui t'envoie? Il faut quand même que je dise, qui? Et Dieu donne comme nom, je suis celui qui est Yahvé. Donc, c'est le nom de Dieu. Et Saint Thomas traite cette question du nom de Dieu dans la question de l'unité de Dieu. Il est l'être le plus simple qui est. Il est. Et la révélation me dit trois personnes. Voyez, ce n'est pas contradictoire, parce que l'être de Dieu est infini, et que je n'ai aucune expérience de l'être infini, sauf Descartes, il y en avait une. Descartes, c'est un être particulier, n'est-ce pas ? Parce que Descartes avait l'expérience de l'infini, le concept de l'infini. Il était né dans le berceau avec le concept de l'infini. Tandis que je ne l'ai pas. Et vous non plus. Mais si Dieu est infini, il peut y avoir en Dieu cette chose merveilleuse de cette fécondité. Du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. C'est la seule chose que je peux dire. Le « je suis de Dieu », je n'en ai pas l'expérience au plan philosophique, au plan humain. Le « je suis de Dieu » pour moi, c'est le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et Dieu n'a pas dit « Je suis le Père ». Il a dit « Je suis celui qui est ». Vous voyez, je crois qu'il faut bien comprendre ce que l'intelligence humaine peut dire, ce qu'elle reçoit grâce à la foi. C'est sûrement à propos de ce problème de la personne qu'on voit la limite de notre intelligence par rapport au mystère de Dieu. Et ça, saint Thomas l'a parfaitement compris. C'est ce qui me fait dire qu'il est le théologien de la personne. Si on veut préciser le caractère de cela. Pourquoi ? Je vais vous expliquer en quelques mots pour que vous saisissiez ça. La personne n'est pas un principe. Elle est une réalité subsistante. C'est une manière d'être la personne. L'animal n'est pas une personne. Il existe, mais il n'est pas une personne. Moi, j'existe comme une personne. Comme une personne dans la nature humaine. Donc, c'est une manière d'être. Quand il s'agit de Dieu, je ne connais rien à sa manière d'être. Il est infini. Je sais qu'il est premier, qu'il est principe, mais je ne sais pas comment il est. Je saisis plutôt son commodo non sit, comme dit saint Thomas. Comment il n'est pas. Il est absolument simple et infini. Et la foi vient me dire trois personnes. Il n'y a pas de contradiction. Puisque d'un côté, je ne sais pas. Et de l'autre côté, je sais. Il n'y a pas de contradiction. Et le théologien précisera que le caractère propre de la personne du Père, c'est la relation qui le distingue du Fils. Et seule la relation me permet de dire quelque chose d'intelligible sur la personne divine. Pourquoi ? Parce que la relation comme telle n'ajoute aucune perfection. La relation est une détermination de l'être qui n'apporte aucune limite, aucune perfection. Et quand les gens disent « j'existe grâce à mes relations », ça existe des gens comme ça. Ils n'existent que grâce à leurs relations. Ils sont très fiers d'avoir de très hautes relations. On ne peut pas exister, nous, grâce à nos relations. Nous existons en nous-mêmes. Et la relation, c'est une ouverture vers un autre. Je suis absolument seul, je n'ai aucune relation. Mais c'est l'être qui se ferme sur lui-même, dans ses limites, et qui n'a aucune relation. Pour avoir des relations, il faut connaître, aimer. C'est ça qui fait les relations. Je connais telle autre personne et je l'aime. Je suis en relation avec elle. Si je ne fais que la connaître sans l'aimer, ma relation est très particulière, très maigre. Ou je peux connaître quelqu'un et cette autre personne ne me connaît pas. Donc il n'y a pas réciprocité. Je n'insiste pas plus, sauf si il y a vraiment là encore des questions qu'on voudrait préciser. Personne. Vous avez le droit de poser la question. Si, oui, pardon. Que
différence entre substance et personne.
Entre personne et
substance.
Substance.
Substance. Ah oui, ou alors, moi je veux bien. Mais là on tombe alors vraiment en métaphysique. Hein. La substance est un principe propre de ce qui est en tant qu'être. Tandis que la personne implique la substance, mais elle est un tout qui subsiste. Oui, la personne est un principe, donc elle est quelque chose de premier. La personne, la substance, je veux dire, la substance est un principe et je ne la saisis comme principe que par mon intelligence. Je n'ai jamais touché, expérimenté la substance. Mais j'expérimente telle substance, mon âme et substance. Or, je peux avoir une connaissance expérimentale de mon âme, mais non pas en tant que substance. J'ai une connaissance expérimentale de mon âme dès que je sais que j'ai la possibilité d'une vie intérieure. Touche mon âme présente. C'est la présence de mon âme. Mon âme, en tant que substance, est principe de vie pour moi. Tandis que la personne je l'expérimente J'ai une expérience interne de ma personne. Je suis. J'existe. Je suis capable d'aimer. Je suis capable de connaître. Vous voyez, c'est quelque chose de concret, la personne. Tandis que le principe, il existe. Je ne peux l'atteindre que d'une manière abstraite. Mais il est réel. C'est pas un être de raison, il est réel. C'est sûr que pour bien comprendre ce que c'est que la personne, il faut toute la philosophie première, toute la métaphysique. Toute la métaphysique est ordonnée à la connaissance de la personne humaine. Si je fais de la métaphysique, c'est pour connaître la personne humaine. Nous avons fait ici, plus exactement à Saint-Jodard, pendant toute l'année, un cours sur la personne humaine. Une heure, pendant toute l'année. Et une très bonne heure, avant le petit déjeuner. Parce qu'à ce moment-là, on est particulièrement éveillé. Puisqu'on attend le petit déjeuner. Et donc on a une avidité parfaite. Et je crois que c'est très très important. Le grand problème d'aujourd'hui au plan philosophique, c'est la personne. Personne humaine. Alors la personne humaine, c'est la substance individuée impliquant l'esprit, impliquant l'intelligence et la volonté. Et la personne humaine assume le corps. Et le corps est source du conditionnement, d'une manière d'être accidentelle, non, je veux dire une manière d'être substantielle, mais complexe. Donc c'est mon conditionnement substantiel, le corps, pour ma personne humaine. Alors vous voyez, on pourrait dire ça si vous voulez, pour que vous compreniez mieux. La personne humaine, je peux saisir ce qu'est la ratio, la raison de personne. Quand il s'agit de la personne humaine, la raison de personne, c'est premièrement la substance. Individuel dans d'un esprit. Quand il s'agit de la personne divine, du Père, la personne est la relation de paternité subsistante. Parce que la relation en Dieu, c'est son être, c'est sa substance. Donc c'est la relation subsistante. Alors vous voyez, il y a cette chose très curieuse. La personne humaine est finie et limitée. La personne divine est infinie. Le fini et l'infini s'unissent dans la personne, comme dans l'être. Et c'est deux manières totalement différentes d'être une personne. C'est ça qu'on appelle l'analogie. Vous voyez? C'est de voir la diversité des manières d'être et ce qu'il y a de commun. Il y quelque chose de commun entre la personne humaine et la personne du Père. Et ce quelque chose de commun me permet de dire que quand je dis le Père comme personne divine, je comprends quelque chose. Mais ce qui caractérise cette personne divine, elle m'échappe. Je ne la comprends pas. Mais j'affirme qu'elle existe par ma foi. Alors, autre question. Pour le mystère de notre divinisation, pourquoi parlons-nous de recréation? Y a-t-il vraiment un nouvel être par la grâce? Recréation ne veut pas dire nécessairement un nouvel être. C'est nous. Justement, de bien saisir les fruits de l'Esprit Saint, de bien saisir la manière dont l'Esprit Saint nous divinise, les rapports de la nature et de la grâce. Un très grave problème. Vous savez qu'il y a eu une discussion, une guerre de 100 ans au niveau théologique, entre dominicains et pères jésuites, sur le problème de la grâce. C'est pas si vieux, hein. C'est même assez récent dans l'histoire de l'Église. Et l'Église a demandé aux dominicains et aux jésuites de se taire, et à cette époque-là, les théologiens obéissaient au Saint-Père, ils se sont tués. Le problème demeure au plan théologique. L'Église n'a pas dit aux uns taisez-vous, aux autres parlez. Non. Les dominicains sont persuadés d'avoir raison. Et les jésuites sont persuadés d'avoir raison. Persuasion de sincérité théologique. Où est la vérité? C'est un très très beau problème. C'est la grande grande question. Quand je suis en face d'un livre d'un théologien qui fait un manuel de théologie, le chapitre que je regarde tout de suite, c'est la grâce. Et je vois tout de suite sa position. On détecte tout de suite hein, le point vulnérable. Vous savez, quand les théologiens se mettent à aboyer, ils aboient fort. Et ils ont une espèce d'irascible assez fort. C'est normal, parce qu'ils sont entièrement donnés à la vérité. Alors c'est normal qu'ils se battent jusqu'au bout. Ça prouve qu'ils ont un peu... qu'ils aiment la vérité, quoi. Et quand il s'agit des rapports de la nature et de la grâce, c'est quand même capital. Alors, je précise. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce sanctifiante. Évidemment, je prends ce que dit Thomas d'Aquin. Je ne sais pas si le catéchisme universel, je n'ai pas regardé tout de suite, j'ai regardé d'autres choses. Si le catéchisme universel prend position. Je ne sais pas, je vais pas regarder, on regarderait. intéressant de voir ça. Si l'Église aujourd'hui a pris position, ou bien si elle a dit oui, ou bien si elle a noyé le poisson. J'ai pas de problème. Alors je avec la ligne, je vais faire sortir le poisson, pas le noyer. Entre nous, on peut le faire, parce qu'on va pas se battre. On va essayer de comprendre la grâce sanctifiante. Elle est quelque chose, certainement on dira à liquide. Elle est quelque chose. De créer. Reçu dans l'âme spirituelle, dans l'âme immortelle. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est ? Participation formelle à la nature de Dieu. Quelque chose, participation formelle à la nature de Dieu. Autrement dit, comme dit Catherine de Sienne, si je voyais la grâce dans l'âme de mon prochain, je verrais la très sainte Trinité. Si j'étais capable de voir la grâce, je verrais la très sainte Trinité. C'est ça que ça veut dire, participation formelle à la nature de Dieu. C'est-à-dire, quelque chose, quand on dit créer, on veut dire quelque chose qui provient d'un autre, qui est causé par la très sainte Trinité. Quelle est la cause principale de la grâce ? C'est la très sainte Trinité. La très sainte Trinité, qui est une nature divine. Et je participe directement, formellement, à la nature de Dieu par la grâce. C'est donc un don gratuite, bref, donnée directement par la très sainte Trinité. Je n'ai pas mérité de recevoir la grâce. C'est donné gratuitement. Et pour nous, la grâce sanctifiante nous est donné ou par le baptême de tout petit enfant qui est baptisé, ou celui qui est converti, qui croit. Alors c'est ou la foi qui vous justifie, ou le baptême. Et c'est pour ça qu'au baptême, quand il y a un tout petit enfant qui est baptisé, il y a toujours un parrain et une marraine qui croient et qui demandent pour l'enfant qui ne peut pas demander à sa place. Oui, c'est très beau. C'est pas les parents, c'est le parrain et la marraine qui demandent ça et qui sont les représentants de l'enfant au point de vue de la foi. C'est par la foi que la grâce est donnée. Immédiatement. Donc, don gratuit à la grâce. Participation formelle à la nature divine. Ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Et comprendre ce que dit Catherine de Sienne. Si je pouvais voir intellectuellement la grâce, je verrai la très sainte Trinité. Parce qu'il n'y a rien entre la grâce et la très sainte Trinité. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de mur, il y a une continuité. La grâce est donc causée, elle est donnée. Donnée par la très sainte Trinité, les trois personnes divines. Par l'humanité. L'humanité sainte de Jésus, notre Sauveur. C'est instrument conjoint de la grâce. Elle est donnée aussi par Marie, médiatrice. Instruments séparés. Conjoints à cause du mystère de l'union hypostatique, où la nature humaine du Christ subsiste dans le Verbe, et Marie, instrument séparé, mais instrument de la grâce. Donc vous voyez, si je regarde au plan théologique la grâce, je vois qu'elle est donnée immédiatement par la très sainte Trinité, cause propre, par l'intermédiaire du cœur blessé de Jésus, par l'intermédiaire de l'oblation du Christ à la croix. Ma grâce est une grâce chrétienne. Elle est trinitaire, elle est chrétienne. Et ma grâce a un lien avec Marie, puisque Marie est ma mère. Mère de ma grâce. La grâce est source en moi de la vie divine. À partir de la grâce, à partir de la grâce sanctifiante, va émaner la foi, l'espérance, la charité. Foi, espérance et charité s'enracinent dans la grâce. Et la grâce s'enracine dans l'âme spirituelle. Ce n'est pas mon corps qui reçoit directement la grâce. C'est mon âme. Et par l'âme, le corps est sanctifié. Par l'intermédiaire de l'âme. Et l'âme spirituelle transformée par la grâce va être source, c'est la grâce, de la foi reçue dans l'intelligence, et l'espérance et la charité reçues dans la charité, reçues dans la volonté. Donc l'intelligence est sanctifié par la foi, et la volonté est sanctifiée par l'espérance et par la charité. Mon intelligence, qui est support, qui a reçu, qui a été transformé par la foi, lorsque je fais un acte de foi, je veux croire. Un acte de foi. Tout acte de foi implique un acte d'intelligence. Forcément. Puisque la foi est reçue dans l'intelligence. Et tout acte d'espérance et de charité implique un acte de volonté. Je peux donc regarder l'exercice propre de mon acte de foi et comprendre que l'exercice de mon acte de foi est où ? Selon ma prudence humaine. Je sais qu'il est bon de faire un acte de foi. Et je fais un acte de foi. Quand je veux, je peux toujours en faire un. Quand je veux. Quand je ne suis pas aliéné psychologiquement. Et cet exercice commandé par la prudence à un mode humain. Et pour dépasser ce mode humain, l'Esprit Saint me donne les dons d'intelligence et donc de science qui permettent de poser un acte de foi selon ayant un mode divin qui transcende, si vous voulez, le mode humain et qui permet de poser un acte de foi imprégné d'amour, tout imprégné d'amour, et donc un acte de foi qui me donne une expérience profonde du mystère auquel j'adhère. C'est ce qu'on appellera une expérience mystique. Toute expérience mystique relève des dons du Saint-Esprit. Et toute expérience mystique est dépendante de la foi, de l'espérance et de la charité. Et c'est l'Esprit Saint qui est source quasi immédiate de toute expérience mystique. Par les dons. C'est celui qui est mu par l'Esprit Saint qui est enfant de Dieu. La parole de Saint Paul est si forte. Et c'est cette expérience qui relève de l'Esprit Saint que à laquelle je coopère. Cette expérience qui relève de l'Esprit Saint et qui relève de moi-même, je consens, je désire cette expérience qui transforme et sanctifie mon intelligence, qui transforme et sanctifie ma volonté, mon cœur. Mais quand on parle du cœur, c'est métaphorique. Il faut parler de la volonté. Parce que la volonté, ne l'oublions pas, pour Thomas d'Aquin et pour tous les pères de l'Église, la volonté est source de l'amour spirituel. C'est depuis Descartes que dans le langage français, la volonté est premièrement source d'efficacité. Et on oppose un homme volontaire et un homme de cœur. Ce qui n'a aucun sens pour Thomas d'Aquin. Un homme volontaire est un homme de cœur. c'est le cœur de pierre à cause du péché, transformé en un cœur de chair par la grâce. Mais c'est quelque chose de spirituel, au-delà de la chair. C'est mon cœur uni au cœur du Christ, à la volonté du Christ, à l'offrande que Jésus fait de sa vie. Alors, il peut y avoir une répercussion sur le cœur charnel, c'est sûr. Exactement comme je fais un grand effort, un grand amour, mon cœur se met à battre. Mais les battements de mon cœur sont une conséquence d'un acte volontaire. Ce n'est pas les battements de mon cœur qui sont source de l'acte volontaire. Quand vous dites à quelqu'un « je t'aime spirituellement très profondément », ce n'est pas les battements de votre cœur qui sont source de cet amour. Qu'est-ce qui sauve cet amour? C'est mon âme spirituelle à travers la volonté et transformée par la charité. Sous l'emprise du don de sagesse qui m'unit à la source de tout amour, le Père, le Verbe et le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et quand je dis le cœur de Jésus, le cœur de Marie, c'est la volonté spirituelle de Jésus et de Marie. Ce n'est pas premièrement le cœur charnel, même glorifié, vous voyez. La distinction de l'âme et du corps demeure dans la glorification. L'âme du Christ est glorifiée, l'âme de Marie est glorifiée, le corps du Christ est glorifié, et le corps de Marie est glorifié. Et le corps n'est jamais source première d'un acte surnaturel et divin. C'est la volonté spirituelle transformée par la charité. C'est très important de comprendre ces distinctions si on veut comprendre l'action de l'Esprit Saint sur nous. Oui. L'Esprit Saint n'agit pas premièrement sur notre sensibilité. Jamais. Il agit toujours premièrement sur notre volonté intérieure, notre capacité d'aimer spirituellement, transformée par la charité, transformée par le don de crainte et le don de sagesse. Notre volonté dans son exercice est transformée par le don de crainte et le don de sagesse. Et ceci complète ce que je voulais vous dire ce matin. C'est bon de l'entendre deux fois, du reste. Parce que il faut quand même maintenir cette petite analyse pour comprendre l'action directe du Saint-Esprit et les fruits de l'Esprit-Saint. Où se situent les fruits de l'Esprit-Saint? La cueillette. Où se situent les fruits de l'Esprit-Saint? Les fruits de l'Esprit Saint se situent dans mon intelligence transformée, divinisée par le don, par la foi, et divinisée par le don d'intelligence. Il y a un fruit propre du don d'intelligence. Alors, si vous avez bien étudié les fruits de l'Esprit Saint, vous devez pouvoir me dire tout de suite quel est le fruit propre du don d'intelligence. Qu'est-ce qui saurait me le dire? Quoi?
L'amour.
La vérité.
L'amour.
L'amour.
La vérité.
L'amour. Puisque parmi les fruits de l'Esprit Saint, il y a l'amour. Alors vous voyez, l'amour, fruit de l'Esprit Saint, n'est pas la charité. L'amour, fruit de l'Esprit Saint, c'est tel acte d'amour. C'est un acte d'amour, j'allais dire, c'est le premier acte d'amour. C'est l'amour premier. Le premier amour. La ferveur de l'amour. Ça, dans la charité. Alors, j'ai dit, dans la foi. Dans la foi, qu'est-ce que ce sera? Ça, c'est le premier acte de volonté, d'une volonté transformée par la charité, dont l'exercice se fait sous l'action du don de sagesse. Alors je peux dire que là, c'est l'amour. Je peux dire aussi que c'est la joie intérieure. Quand il s'agit de la foi, facile à comprendre, hein. Il y a ferveur qui relève de l'amour. Au point de vue de la foi, l'analogue de la ferveur dans la foi. L'analogue de la ferveur dans l'espérance. La ferveur, c'est l'amour, un amour fervent. Comme dit saint Thomas, en bon théologien, qu'est-ce que c'est que la ferveur? C'est l'eau qui bout. Quand l'eau bout, le couvercle se lève. On voit saint Thomas en face de sa casserole. Quand l'eau bout, le couvercle s'élève. Et alors, la ferveur de l'amour, c'est le dépassement extatique. L'extase. Et l'extase au plan substantiel, pas l'extase charismatique. Il y a une extase charismatique. L'extase charismatique, c'est lorsque justement vous êtes tellement pris par Dieu que vous êtes séparé des autres. C'est charismatique. La petite Marthe disait ceci au début, quand elle était en extase. Elle était séparée de tous ceux qui étaient autour, même du Père Finet. Et à la fin de sa vie, l'extase ne la séparait plus. L'aspect charismatique laissait la place à l'aspect substantiel. Et ça, c'est très beau. Que l'aspect charismatique est toujours ordonné à la grâce sanctifiante. Mais je vous laisse chercher ça, parce que c'est bien de chercher ça, pour que vous compreniez mieux ce que c'est que les fruits. Bon, on vous a lu tous les fruits de l'Esprit Saint. Relisez-les, parce que je vous ai donné les choses. Et essayez de comprendre, à travers ces fruits, le rattachement à tel ou tel don. Si je vous le dis, vous ne retiendrez pas. Si vous le trouvez, vous retiendrez. Alors cherchez. Excellente petite méditation. Ce n'est pas l'oraison, mais c'est une méditation. Petit effort théologique. Et vous voyez que les fruits, tels que les donne saint Paul, Galates, Romains, Éphésiens, sont beaucoup plus nombreux que 7. Donc il faut les regrouper. Ce qui est tout à fait normal.